Écoute dans la nuit. Chantal Bally, bonsoir à tous, bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre et entrer dans le dialogue, le téléphone 01 56 56 44 00. Notre invité ce soir est Pascal Parinet, psychanalyste, gestalt thérapeute et formateur en relations humaines. Avec Marie-Laurence, son épouse, il propose, à travers des parcours adaptés aux situations diverses de chacun, au sein de l'Institut de formation Psychrétien, une aide thérapeutique qui permet de se réconcilier avec soi-même, dans toutes les dimensions de son humanité, et avec les autres, et cela dans la perspective d'être plus disponible pour accueillir l'action de Dieu dans nos vies. Pascal Parinet, bonsoir.
Bonsoir Chantal, bonsoir à tous les auditeurs.
Alors, eh bien, notre sujet de réflexion, de partage ce soir, je le disais, syndrome religieux, pensée magique et foi. Alors, oui, ce sont des problématiques différentes.
Voilà.
La foi, c'est une... C'est la foi, mais...
La foi n'est pas une problématique,
mais
la pensée magique, ce que j'ai appelé, moi, syndrome religieux, on verra des différents syndromes.
Oui.
Mais ce sont en tout cas des problématiques qui vont apparaître en lien avec la foi, même si ce n'est pas la foi qui est à l'origine de ces problématiques-là.
Oui.
Donc, c'est des problématiques psychologiques, mais qui vont se manifester un peu plus sur le terrain de la foi.
D'accord. Quand c'est pas bien ajusté.
Quand c'est pas bien ajusté,
ouais.
On pourrait d'ailleurs les trouver ailleurs. Hein, ça remet pas en cause la foi.
Mais c'est parti. Sur ce terrain-là, il y a des symptômes particuliers.
Et qui vont se manifester. Alors, on verra les syndromes. On va parler de différents syndromes, d'ailleurs. Pas forcément en lien avec la foi, au moins pour un, le syndrome de Paris. Les autres, on pourra voir, il peut y avoir un petit aspect de foi, mais pas pour celui-là.
Avons-nous le syndrome de Paris?
Non, pas nous.
Parce que nous, on y est dedans, on est dans la réalité.
Voilà, on vit dedans. Mais en tout cas, l'enjeu, c'est de mieux comprendre des phénomènes qui se manifestent d'une façon un peu plus spécifique chez les croyants, en tout cas pour le syndrome religieux.
D'accord.
La pensée magique, on va la retrouver un peu chez tout le monde, hein. C'est pas spécifique aux croyants.
Aux croyants, bon. Mais c'est intéressant de bien voir ce que c'est, hein,
pour discerner. Oui. Et puis peut-être aussi évoluer dans sa foi, la purifier en quelque sorte des aspects psychologiques. Alors, ça ne veut pas dire que ce type de difficultés, ils n'apparaîtraient pas autrement ou ailleurs. Si les personnes n'étaient pas croyantes.
Ça se transposerait autrement.
En tout cas, pour la pensée magique, oui. Donc, ce n'est pas vraiment spécifique au fait de croire. Sauf qu'on verra quand même le syndrome religieux, il est un peu plus spécifique. En tout cas, par rapport... au fait qu'il se manifeste souvent dans un cadre religieux. Mais c'est plutôt que ce sont des aspects de la psychologie humaine qui viennent se greffer sur la dimension spirituelle.
Oui. Et donc il y a là comme une... au lieu que ce soit bien des plans différents, il y a un mélange.
Un amalgame des deux. Une sorte de greffe, un peu comme un champignon vient se greffer sur un arbre.
Oui.
Une greffe de la psychologie sur des aspects spirituels.
Oui. Alors, qu'appelle-t-on la pensée magique, et est-ce qu'elle correspond peut-être à un stade de notre croissance aussi, comment elle s'exprime?
Alors, la pensée magique, d'abord, ça appartient normalement au monde de l'enfance, ce qui ne veut pas dire qu'il ne nous en reste pas un peu à l'âge adulte.
Quelques traces, il peut y en avoir.
On a des traces, et puis en fonction des personnes, plus ou moins importantes.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans la pensée magique, pour l'enfant comme pour l'adulte?
Eh bien, il croit que ce qu'il pense ou ce qu'il désire se réalise simplement par le fait qu'il y pense ou qu'il le désire.
Et ça apparaît de façon magique.
Alors, pour lui, c'est magique.
Oui, c'est magique.
C'est magique dans le sens où je pense ça et ça se réalise.
Alors, le petit enfant, par exemple, puisque ça appartient au monde de l'enfance, vous disiez.
Alors, chez l'enfant, c'est normal, finalement, parce que les parents sont là pour veiller sur lui. Et du coup, par exemple, quand il a faim, il va avoir un biberon.
Oui,
mais
c'est ça.
Il ne réalise pas qu'entre-temps, la mère, en tout cas tout petit, que la mère l'a préparé, l'a fait chauffer. Donc, pour lui, c'est magique.
Oui, et puis qu'il y a des heures aussi. Voilà.
Il a faim.
Il pense qu'il a faim.
Biberon,
il pense biberon et le biberon arrive. C'est magique.
Et c'est magique.
C'est magique. Alors, donc, pour l'enfant, ça se comprend. Il en est à un stade.
Voilà, où il se réveille, il a envie de voir sa mère.
Et elle est là.
Et elle arrive.
Elle arrive, c'est magique.
Voilà. Et donc, c'est...
Il pense que, il n'y a pas de... Il suffit d'y penser que tout de suite, ça se réalise.
Et c'est vrai.
Oui.
Sauf que c'est pas magique dans la réalité.
C'est ça. Ouais. Ah. Il y a tout un processus. La maman a veillé.
Il va falloir qu'il apprenne, qu'il découvre que finalement, c'est pas par sa pensée qui fait venir apparaître le biberon ou fait venir sa mère, mais que c'est parce que sa mère réalise qu'il a besoin de quelque chose qu'elle vient.
Alors finalement, les magiciens, quelque part, ils élaborent forcément, eux, quelque chose, et puis ils font apparaître, ça paraît magique.
Alors c'est un peu la même chose, finalement, quand on... Le magicien...
Professionnel, dans une foire, dans
les spectacles, ils utilisent quelque part quelque chose de notre pensée magique.
Oui.
Alors, avec tous leurs dons et leurs astuces.
Justement, il y a toute une élaboration, là,
alors,
par contre.
Voilà, mais pour nous, on a l'impression que, quand ils font apparaître un lapin d'un chapeau, on a l'impression que c'est par magie.
Mais oui.
Parce qu'on ne voit pas
tout ce qui s'est passé.
Toute l'astuce qu'ils ont pour le faire apparaître.
C'est retrouver l'esprit d'enfant, l'esprit d'enfance du petit enfant. Quoi.
Quelque part, ils nous remettent dans les conditions du petit enfant qui est admiratif devant ça.
Alors ça, on voit bien que chez le petit enfant, on a compris que...
C'est normal.
C'est normal.
Ça fait partie du processus de développement.
Mais en ce qui concerne l'adulte, alors?
Alors, d'abord, ça reste quand même assez souvent, plus ou moins, mais chez l'adulte. Alors, on pourrait voir des différents aspects. Par exemple, dans ce qu'on a appelé la pensée positive ou la pensée créative, certains y voient un aspect magique parce que ils en oublient ou ils n'ont pas compris qu'il y a tout un tas de mécanismes. Par exemple, dans la pensée positive, normalement, on voit que le fait de penser positif, ça va induire en nous certains comportements qui vont favoriser, un rendez-vous, par exemple. Si c'est avant un rendez-vous, on va se mettre en condition, on arrivera avec confiance. Et donc, la pensée positive,
elle aura des chances
met en route un processus. Mais certains vont imaginer que il suffit de penser positif pour que ça arrive. Et là, ça rentre dans la pensée magique. C'est un peu la même chose avec la pensée créatrice, dans la pensée créatrice, c'est une technique, en quelque sorte, qui rejoint la méthode Kui, où on va créer une représentation de ce qu'on désire, essayer d'avoir une image nette de nos désirs, et puis lâcher prise, mais en même temps, on aura formé une image nette, et ça va mettre en route tout un processus qui va permettre de canaliser nos désirs et de les mettre en mouvement.
Mmh. Il y a toute une élaboration.
Mais ça suit un processus et certaines personnes vont dire il suffit de penser à ça et va se passer, on va arriver à créer les événements qu'on veut.
Ça court-circuite tout ce qu'il y a entre deux, mais qui ne se voit pas, qui est un processus.
Qui ne se voit pas, qui est un processus comportemental, pourrait dire, ou naturel, mais que la personne ne prend pas en compte. Et c'est un peu comme si on partait de Paris pour aller à Rome et qu'on disait... d'ailleurs, il y a une publicité en ce moment à la télévision.
Vous voyez, ils utilisent la pensée magique, oui, sûrement.
Où des personnes rentrent dans une voiture à Paris et dès qu'ils s'installent sur leur siège, ils arrivent au bord d'une plage.
C'est magique,
Ça, c'est magique.
Donc, la publicité utilise forcément cela.
Voilà. Alors, la pub, c'est pour dire que la voiture est confortable et que du coup, on oublie
la distance.
Toute la distance, tout le trajet qu'il a fallu faire. Voilà, la pensée magique, c'est un peu ça, quoi.
On oublie tout le trajet.
On oublie tout le trajet, tout le processus qui s'est mis en route sans forcément qu'on s'en rende compte entre la pensée et le résultat final.
Parce que ça agit dans le subconscient, toute une...
Et ça nous met souvent en condition favorable pour réaliser les choses.
Ça n'est pas magique pour autant.
On est dans des choses un peu agréables. Oui. Mais il y a des personnes, et là c'est un peu plus gênant, par exemple, qui vont imaginer qu'un événement, alors des maladies, des décès ou des catastrophes sont survenus par le simple fait d'y avoir pensé. Mmh. Et ça arrive, par exemple, souvent dans les deuils où les gens disent, ou des maladies graves, mais j'ai pensé que cette personne allait mourir et peut-être c'est à cause de moi qu'elle est morte parce que j'y ai pensé.
Oui.
Et là, la personne se sent coupable, elle va en souffrir. Mais elle est dans la pensée magique, parce que c'est pas parce qu'elle a pensé que la personne a eu une maladie ou est décédée. Simplement, peut-être qu'elle a vu, qu'elle allait moins bien que d'habitude, qu'elle a des symptômes, peut-être qu'il y a déjà la maladie qui était présente et que la personne s'est dit, tiens, peut-être elle est malade.
Ça ne s'est pas fait à cause de sa pensée.
C'est pas sa pensée qui a créé la maladie chez l'autre ou le décès. Mais on voit que dans ce cas-là, la pensée magique, elle agit et elle peut rendre coupable.
Il y a toute une culpabilité qui peut se mettre en place, oui.
Voilà.
Alors, il suffirait que d'y penser pour que ça arrive, en positif ou en négatif. Mais alors, ce qu'on appelle la méthode Kui, c'est un peu ça, non?
En apparence, Monsieur Kui avait cette capacité... que certains croient magique et il suffit de penser à une chose ou il suffit de se dire une chose pour que ça se réalise. Seulement,
qu'est-ce qu'il en est?
Quand on essaye la méthode Kui, finalement ça marche pas si bien que ça.
Donc, c'est qu'il y a un truc, là.
Alors, il y a un truc, c'est qu'il avait une capacité à se faire des représentations suffisamment claires. Alors, ça rejoint toute la pensée positive,
oui,
la
oui.
pensée créative.
Oui, oui.
Et donc à se représenter mentalement assez, d'une façon assez claire ce qu'il désirait pour que ça arrive, mais ça se faisait pas sans qu'il agisse dans le monde. Et ça se faisait pas sans un processus, alors soit de son comportement à lui, soit de son action dans le monde. Et du coup, c'était pas magique, mais ça relevait d'une méthode. Alors d'abord pour clarifier son désir,
oui.
pour se le représenter, parce que souvent on désire une chose, mais on n'en a pas de représentation mentale, et la représentation mentale permet quand même de clarifier son désir, de le rendre plus vivant en nous. Et puis surtout de mobiliser tout son être vers un objectif.
C'est ça.
Et puis une fois que toute la personne est mobilisée vers l'objectif, eh bien d'agir et de lâcher prise.
Voilà, donc on voit que chez Monsieur Coué, sa fameuse méthode, c'est pas magique. Hein. Comme vous dites, vous avez bien décrit tout ce qu'il y avait derrière, hein, et il avait cette faculté, mais qu'il en pouvait enseigner à des personnes qui venaient auprès de lui. Merci Pascal Parinet. Donc ce soir, syndrome religieux, pensée magique et foi, et bien sûr vous êtes invité à nous rejoindre au 01 56 56 44 00, peut-être pour vérifier ce que vous vivez dans la pensée magique ou bien dans la foi, voilà. On écoute tout de suite, c'est Étienne Dao, et le titre c'est Le Brasier.
Radio Notre-Dame.
Ces instants fragiles sont emplis d'espoir. Même si j'étais la cible et la proie de mille aiguilles, de sang coups bas qui m'éloignent trop de moi, la perfection pure n'a souvent pas de prix. La rechercher me détruit, puis je reviens à la vie, vois tout au fond de moi, ce brasier qui ne s'éteint pas. Que vive la flamme, que vive la flamme. Pour à nouveau prendre feu et brûler jusqu'au bout. À nouveau prendre feu et brûler jusqu'au bout. C'est irrépressible. L'espoir, s'accrocher à des détails, l'espoir, si la vie se charge de me refaire tomber, sans personne à mes côtés. À nouveau la solitude me déprave, tu sais même les épaves sont de la trempe des braves, vois tout au fond de moi, ce brasier qui ne s'éteint pas. flamme.
Le brasier, c'était donc Étienne Dao. Et ce soir, nous parlons de syndrome religieux, pensée magique et foi. Et donc, on évoquait la méthode Coué, qui pourrait ressembler à la pensée magique. Or, il n'en est pas question, puisque Monsieur Coué était quand même quelqu'un qui avait la faculté, justement, de faire des représentations suffisamment claires, hein, de ce qu'il désirait.
Hein? Oui, donc de se créer une représentation mentale.
Oui, mentale,
une
oui.
Une image mentale de ce qu'il désirait, de mobiliser son être,
ben oui.
D'agir, et puis de lâcher prise. Parce que quand on se fait une représentation, bien sûr, il faut agir, mais il y a aussi toute une part de lâcher prise, de confiance dans la vie pour que ça se réalise.
Ça peut être, par exemple, si on cherche un emploi, on peut utiliser cette démarche-là pour se mettre dans les meilleures conditions.
Voilà.
Donc c'est un peu la méthode Coué, c'est un peu ça, ou pensée positive.
Voilà. Et sur le versant spirituel, on retrouve la même chose avec saint Ignace quand il dit priez comme si tout dépendait de Dieu et agissez comme si tout dépendait de vous.
Oui, c'est ça. Oui.
On est vraiment dans à la fois
la confiance,
mais la confiance
en y mettant du sien. C'est pas magique. Il faut y mettre du sien.
C'est pas magique.
Et voilà, c'est en alliance. C'est ça l'alliance entre Dieu et l'homme. C'est que l'homme doit faire sa part. C'est pas magique. Il doit faire sa part et Dieu fait le reste comme si on lui lâche, on abandonne tout. Et après, ça se vit.
La personne qui serait uniquement à prier, mais resterait assise ou enfermée chez elle à attendre que ça se réalise, il ne se passerait rien. Parce qu'il faut bien qu'elle se mette
en mouvement,
qu'elle participe.
Bien sûr.
Qu'elle participe avec son être.
Bien sûr. Pour que ce soit une alliance entre
pour
Dieu et l'homme, sinon
ce
n'est pas une alliance.
Ouais.
Oui. Alors, justement, qu'en est-il par rapport à la foi, Pascal Parinet?
Alors, souvent, c'est assez difficile pour le croyant de différencier ce qui relève de la foi et de la pensée magique. Et puis, chez certaines personnes, les deux vont se confondre, justement.
Mm-hmm. Par exemple,
il y a des personnes qui imaginent que toutes leurs prières doivent être exaucées.
Et quand ça n'arrive pas...
Parce que ce qui veut dire que finalement, avec la foi, les choses vont se réaliser un peu comme par magie, sans qu'elles aient à faire quoi que ce soit. Et donc, on entend souvent, il suffit d'y croire et puis ça marche. Quoi. Mais pas toujours, il faut se mettre en mouvement quand même.
C'est vrai qu'il peut y avoir des choses un peu ambiguës. Jésus a dit certaines paroles rapport à la foi.
Par exemple, quand il dit que si on a une foi grosse comme un grain de sénevé, on pourrait déplacer des montagnes. Mais alors, il y a saint Paul aussi qui nous rappelle que ce qui est important, c'est de saisir l'esprit
de cette parole
et non pas de prendre la parole à la lettre.
C'est pas fondamentaliste.
Voilà, c'est pas parce que c'est écrit que ça se réalise de la même façon, oui. Et que
on déplace le Mont Blanc avec moins d'être
voilà,
Hercule.
Par la pensée. Oui. Mais et par contre, si on en prend l'esprit, ça veut dire que si on a la foi, on va déplacer des montagnes, mais au sens symbolique du terme.
Mm-hmm. Et c'est ça la foi.
Et c'est ça la foi. Mm-hmm. Après, Jésus, il faisait des miracles qui défiaient les lois de la nature. Mais en même temps, on peut imaginer que quand il dit ça aux apôtres, il sait très bien qu'il ne s'agit pas de déplacer la montagne physique, mais qui se situe sur un plan symbolique. Et que là, les hommes peuvent faire des choses très importantes et même qui paraissent miraculeuses.
Mais donnez-leur vous-même à manger, qu'il dit par contre.
Ouais.
C'est ça, donnez-leur vous-même à manger.
Et quand il y a la multiplication des pains,
il demande la participation. Il faut que le petit garçon apporte. Donc il y a bien un déplacement, un mouvement.
C'est pas le magicien qui fait sortir le lapin du chapeau.
Non.
Il demande que
la participation
de l'homme, même si avec cette participation de l'homme, il fait un miracle.
Oui. Mais il y a bien la participation de l'homme.
Il y a la participation de l'homme.
Lorsqu'il guérit, par exemple, le paralytique qui ne peut pas bouger, il faut la participation de ceux qui ont l'imagination de le passer par le toit.
Oui.
Donc là, il y a quand même un drôle d'effort.
Les hommes le portent pour tous. Quand Saint-Pierre, quand ils marchent sur l'eau et que Saint-Pierre le rejoint, c'est pareil. Enfin, il y a toujours, quand il demande à l'aveugle qu'est-ce qu'il veut, il y a toujours...
Et la participation, veux-tu que je fasse pour toi?
Une interaction entre Jésus et l'homme, et à ce moment-là, il y a le miracle.
Et il a besoin que l'homme le formule, parce qu'il se doute bien que l'aveugle qui ne voit pas, son désir c'est de voir.
Oui.
Mais il a besoin, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est plus pour l'aveugle formule son désir, en fait.
Alors, y a deux choses. Il y a qu'il formule son désir, et puis il y a le libre arbitre aussi. Parce que sinon, l'homme deviendrait une marionnette.
Bah oui, la liberté, est-ce que tu as envie, est-ce que tu veux ?
Voilà.
Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas guérir non plus, inconsciemment.
Oui, alors, en tout cas inconsciemment, mais je pense que toute personne...
A le désir, oui.
A le désir au moins.
Oui. Bien sûr, d'aller bien.
Une partie de son être a le désir d'aller bien.
Mmh.
Mais
parfois, il peut y avoir inconsciemment
Si Jésus voyait un aveugle et qu'il disait, celui-là, il est aveugle, je vais le guérir, quelle serait la liberté de la personne?
Eh bien oui. Il faut donc cette participation qui est la participation de cette liberté, finalement.
Eh oui.
Donc c'est ça qui fait la frontière avec ce qui est magique et ce qui ne l'est pas.
Voilà, sinon on ne serait plus que des robots ou des marionnettes dans les mains de Dieu et on n'aurait aucune liberté.
Ça c'est le monde tel que certains le voient maintenant.
Alors, il y en a peut-être qui rêvent de ce monde-là.
Les robots,
voilà.
Mais qui est un monde où la liberté n'existe plus.
Eh oui. Et donc, qui n'a plus rien à voir avec la foi, puisque...
Avec l'humain, ni avec le divin.
Ni avec l'humain, ni avec le divin, puisque dans la foi, il y a quand même comme principe premier le libre arbitre et l'adhésion de l'homme à la foi.
Alors donc, la foi n'agit pas par magie, parce qu'il y a quand même un mouvement, on se met en mouvement.
Voilà, parce que elle demande la participation de la personne qui se met en mouvement. Elle donne l'espérance et la confiance aussi, mais...
Donc ça développe une attitude intérieure.
Ça développe toute une attitude intérieure de confiance. ce qui va permettre de la persévérance, parce que là aussi, c'est pas magique,
oui.
C'est pas
un claquement de doigts,
et puis la chose se réalise. Mmh. Parfois, il y a tout un chemin, il y a des obstacles à franchir.
Donc, il faut tenir et être persévérant.
Voilà, il faut être persévérant et rester dans l'espérance. Mmh. Et finalement, ça peut permettre de faire des grandes choses. Et on le voit chez tous les saints, mais ça n'a jamais été magique chez les saints. Oui. Ils n'ont pas eu des vies forcément faciles.
Non, en général, non.
Mais voilà, ils ont fait des grandes choses, justement parce qu'ils se mettaient en mouvement, parce qu'il y avait cette foi, cette espérance et cette persévérance.
Oui. Alors, oui.
Ce qui n'empêche pas la providence. Hein?
Oui, bien sûr.
Mais on pourra dire que la providence, ben, elle intervient à travers des rencontres. Alors, même dans les miracles, il y a quand même une démarche. Quand on songe aux personnes qui guérissent miraculeusement à Lourdes ou dans la Bible.
Elles ont fait le déplacement pour y aller déjà.
Elles ont fait le déplacement, elles ont prié, il y a d'autres qui ont prié pour elles. Enfin, il y a toute une mise en route de la personne.
De la personne et de l'entourage aussi.
De l'entourage.
Aussi, bien
sûr. Et puis elles sont portées par toute la communauté. Voilà, donc ça empêche, et la providence, de fait, elle intervient à travers des rencontres, à travers des événements, voilà, de se déplacer, d'aller dans un endroit de pèlerinage, et là non plus, pas d'une façon magique, même si ça paraît magique.
Parce que le résultat, étant donné que c'est tout... On voit que le résultat, on court-circuite, on ne voit pas tout ce qui est caché, justement.
Oui, et tout ce qui est du vécu intérieur.
Oui, là, ce qui est caché, le vécu intérieur n'est pas
caché.
Ce ne se voit pas.
Voilà.
Oui.
Et du coup, bah, oui, le résultat, comme ça, vu comme ça, il paraît magique, mais tout ce qu'il y a, tout ce qui se vit à l'intérieur de l'homme, c'est pas magique. Tout ce qui est de l'ordre de la foi, c'est pas magique. Et tout ce processus où la personne s'est mise en mouvement ou que d'autres sont mis en mouvement pour elle, ben, c'est pas magique non plus.
Et c'est justement il y a tout un travail sur soi, en soi, qui se fait. Alors donc à ce niveau-là, ce qui distingue la foi et la pensée magique, finalement.
Alors, ben quand c'est par rapport à l'écriture, par exemple, c'est de pas prendre l'écriture systématiquement à la lettre, au lieu d'en saisir l'esprit, ou de pas voir uniquement le résultat quand c'est quelque chose un peu miraculeux. Sans prendre en compte tout le processus qui s'est déroulé dans la personne ou dans les événements ou dans l'entourage. C'est aussi de croire que toutes nos prières doivent être exaucées telles qu'on les pense ou telles qu'on les désire.
Comme si Dieu était à notre disposition.
Voilà, il y a un film assez amusant qui, je crois que c'est Bruce le Tout-Puissant ou je ne suis plus sûr du titre.
Donc oui, c'est cette série-là, oui.
C'est quelqu'un qui est en colère contre Dieu parce qu'il n'exauce pas les prières. Puis alors, je crois qu'il a un accident et il meurt. Et il se rebelle contre Dieu. Et puis, donc Dieu lui dit, écoute, moi, je vais partir en vacances pendant 8 jours ou un mois, je ne sais plus combien. Et tu te charges
de régler
tous les problèmes et du coup, au début, il exauce toutes les prières. Il dit, moi, je vais pas faire comme Dieu, je vais exaucer tout le monde. Et il met une pagaille épouvantable parce que forcément...
Les désirs des uns sont opposés.
Voilà, et il comprend.
Il comprend.
Et à la fin, il rend son tablier à Dieu, si on peut dire.
Quand il a mis le désordre et le chaos.
Voilà.
Mais c'est un petit peu l'homme, ça, dans notre société. L'homme... Alors, avec sa liberté mal employée,
l'homme tout-puissant, qui... Ça rejoint de vouloir être comme Dieu.
Ben oui, mais c'est ça. C'est bien ce que ce film exprime, quelque
ouais,
part.
Ouais. Ouais. Et voilà, et l'homme n'est pas Dieu, et s'il commence à se prendre pour Dieu dans une pensée magique, ben c'est le bazar.
Ah oui. Donc, ben écoutez, on a parlé beaucoup de transhumanisme cette semaine. Eh bien, voilà, c'est peut-être, il y a peut-être quelque chose de magique.
Le transhumanisme, on est dans, alors, un peu dans une pensée, en tout cas dans quelque chose, un peu de la toute-puissance.
Oui.
Et un peu une pensée magique quand même, parce que quand le résultat final, c'est l'immortalité de l'homme. Hein, mm-hmm. Le rêve magique mm-hmm. du transhumanisme, c'est de transférer toute l'expérience d'un homme dans un ordinateur.
Mm-hmm.
Donc on est dans la magie de l'immortalité.
Mm-hmm.
Voilà, et là, on est un peu dans une pensée magique, quand même.
Merci, on va réfléchir à tout ça. Pascal Parinet, et bien sûr, nos auditeurs sont invités à nous rejoindre au 01 56 56 44 00. Voilà, comment... est-ce que vous pensez que vous vivez sous cette, on peut dire, emprise de la pensée magique, non ? Emprise, non, c'est pas tellement...
Oui, emprise, en tout cas, c'est plus un mode de fonctionnement.
Voilà, un mode de fonctionnement, magique. Voilà. Est-ce que, en tout cas, ça vaut la peine d'y réfléchir et de prendre cette distance.
Est-ce que vous pensez que la foi est magique ?
Voilà, est-ce que vous pensez que la foi est magique ? Voilà, on peut en discuter ce soir avec vous et Pascal Parinet. À propos de ce thème, hein, syndrome religieux, pensée magique et foi. Je vous propose d'écouter tout de suite, c'est Axel Bauer, Souviens-toi, c'est le titre.
Radio Notre-Dame.
Faudra-t-il faire de longues prières ? Chanter des oraisons ? Faudra-t-il taire mes vaines colères pour dire ton nom? Croiser le fer, harasser mes nerfs pour baiser ton front? Souviens-toi, mes bras t'ont serré, guette-les, ces bras sans alliés. Souviens-toi, comme ils t'enlacèrent, remplis-les de ce corps. Thank you.
Voilà, c'était Axel Bauer, Souviens-toi. Je vous propose donc de nous rejoindre au 01 56 56 44 00. Voilà, nous allons poser cette question. Est-ce que pour vous, est-ce que vous considérez que la foi est magique?
Voilà.
C'est une bonne question.
C'est,
hein,
c'est vraiment une question. Est-ce que c'est le mystère de foi,
ouais,
ou la magie de la foi?
Voilà, mystère de la foi ou magie de la foi, hein, c'est...
C'est deux façons de voir.
Oui, c'est ça. Et qui peut se vivre, chez les croyants d'une façon ou d'une autre. Hein. Ça peut se vivre comme le mystère ou comme la magie.
Et c'est pas si facile
non,
que
c'est
ça.
Non, c'est pas si facile de faire la...
D'accepter que ça soit un mystère,
oui.
C'est quand même plus facile, en tout cas pour l'humain, de le penser magique.
Oui. Hein. Parce que ça entraîne dedans.
Et puis la magie, ça se contrôle, la magie.
Ah oui, c'est ça.
Il faut avoir un pouvoir magique, mais c'est possible d'avoir un pouvoir magique. Mm-hmm. Il y a des magiciens, on les voit à la télé et tout. Mm-hmm. Ce qui est mystérieux, on ne contrôle pas.
Ce qui nous dépasse, En tout cas, voilà, comment voyez-vous la foi? C'est tout un débat. Hein.
Ouais.
Alors, on disait que donc la foi n'agit pas par magie, on disait. Mais peut-être que nos auditeurs...
Moi, je pense du côté du mystère.
Bon, moi aussi. Alors, où on va retrouver encore la pensée magique?
Alors, dans le fait de voir des signes dans tous les événements. Voilà, par exemple, un jeune homme qui fait connaissance d'une jeune femme dans une retraite ou dans un pèlerinage, ça ne veut pas forcément dire que c'est un signe de Dieu. Et ça ne veut pas forcément dire que parce qu'il la croise dans un pèlerinage et qu'ils se sont regardés 30 secondes, qu'ils doivent se marier ensemble.
C'est ça, oui.
Hein? Alors, ça peut arriver.
Par exemple, chez les Martins, les parents de la petite Thérèse, mais voilà.
Voilà, mais ça peut arriver.
C'est quand même une longue élaboration de vie.
Alors,
hein.
Et puis le coup de foudre peut arriver.
Bien sûr.
Donc ça, ça remet pas en question mais c'est pas systématique.
C'est pas systématique. Hein. Oui.
Dans la pensée magique, c'est si j'ai rencontré cette personne dans un lieu religieux. C'est Dieu qui me l'envoie, c'est forcément la bonne personne. Non, pas toujours. On pourrait dire, si de la même façon, si je roule avec des pneus lisses et qu'il y en a un qui crève, c'est pas un signe de Dieu pour que je rate mon rendez-vous. C'est simplement que j'ai été un peu inconséquent et que je roule avec des pneus lisses. Et du coup, c'est pas étonnant que j'ai crevaison au bout d'un moment. C'est plutôt un signe de ma négligence.
Oui, c'est un signe, mais de ma négligence plus que de la volonté de Dieu de me faire comprendre quelque chose d'autre. Oui. Alors, comment peut-on, discerner si c'est un signe ou non?
Un signe, d'abord, ça fait sens. Et ça s'inscrit dans une suite d'événements et non pas dans un incident ou dans un événement qu'on interprète sur la base de la pensée magique.
Mm-hmm.
La crevaison, c'est mon pneu qui était lisse ou qui était dégonflé, ça s'inscrit dans une suite logique. Mmh. Et c'est le signe de la négligence.
Oui, oui.
Le côté magique, c'est je l'interprète.
Oui, c'est une interprétation.
D'une façon erronée qui est c'est Dieu qui veut pas que j'aie mon rendez-vous. Mais si j'avais bien gonflé mes pneus ou des pneus en meilleur état, Dieu il aurait bien voulu que j'y aille.
Ah. Donc là, on voit que c'est pas un critère un signe de Dieu.
Voilà.
C'est pas un signe de Dieu.
Non, on est dans des exemples simples,
basiques. Oui. Ben oui.
Mais dans la vie, c'est souvent un peu plus compliqué que ça.
Oui.
Et il y a certaines personnes, qui peuvent faire la confusion. Alors, ce qui est important, c'est que tout ne fait pas signe au niveau spirituel.
Mm-hmm.
Et ça sert à rien de voir des signes partout, sinon à vivre dans l'illusion. Mais la foi, c'est pas l'illusion.
Mm-hmm.
Et quand une personne interprète tous les événements uniquement sur un plan spirituel, sans prendre en considération
la réalité.
La
matière, elle a aussi à apprendre.
La matière, les aspects physiques, au niveau humain, les aspects psychologiques. Bah, finalement, c'est souvent un symptôme de pensée magique. Parce que il n'y a plus la prise en compte de la réalité. La personne n'est plus dans le réel, elle est dans quelque chose qui est magique, donc qui est irréel. Alors moi, j'ai un petit adage que je dis assez régulièrement à des patients.
Alors c'est quoi ?
C'est
pour en profiter.
Pour avoir la tête dans le ciel,
oui.
Il faut avoir des chaussures en plomb. Sinon, on risque de décoller. Dit autrement, c'est-à-dire que la foi, elle s'enracine aussi. Alors, encore plus la foi chrétienne, qui est la foi quand même où il y a l'incarnation.
L'incarnation, oui. Oui, donc, ça, comprends bien qu'il faut prendre en compte l'incarnation.
Il faut prendre en compte l'incarnation. Oui. Elle s'enracine dans la matière, dans le corps. Dans l'humain, mais au sens corporel.
Mm-hmm.
Et donc, voilà, faut le prendre en compte et ça permet de vivre la foi. Et sinon, si la foi n'intègre pas cette dimension humaine, corporelle et de la matière,
mm-hmm.
À ce moment-là, on risque de décoller et d'être dans l'illusion.
Et justement, le Christ est venu assumer cette matière. Hein,
voilà.
Et à quel prix ? Donc, je veux dire, au prix c'est coltiné. C'était pas magique, la
non,
croix.
Enfin, non, alors,
pour nous,
coup,
non.
Ni toute la période qui va être Gethsémanie, la
oui.
croix, enfin, la flagellation, tout ça, c'est pas magique.
C'est une réalité bien et douloureuse, plus que
oui.
douloureuse. Hein.
Et puis la croix, c'est bien physique aussi. Donc il mm-hmm. y a vraiment cette dimension de la chair humaine
mm-hmm.
Et qu'on retrouve dans l'Eucharistie.
Ben oui. Pour faire ce passage,
vers
la résurrection, vers un monde.
Pour faire ce passage, mais on ne peut pas faire fi de cet aspect de l'incarnation et de ne voir que l'aspect, qu'un aspect spirituel sans incarnation, sinon on risque de basculer dans un côté de pensée magique.
Voilà, donc... Alors, parlons peut-être du syndrome religieux. Qu'est-ce qu'un syndrome, déjà, aussi ?
Alors, un syndrome, c'est un ensemble de symptômes qu'une personne va présenter. Alors, lors de certaines maladies, mais avec quand même un aspect qui n'est pas toujours pathologique. Alors, on parle de maladie, en même temps, on dit que ce n'est pas toujours pathologique. En tout cas, c'est un ensemble de symptômes qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ce n'est pas forcément pathologique.
Mmh. Un ensemble de symptômes, on appelle syndrome, mais pas forcément pathologique. D'accord.
Ouais.
Alors, dites-nous, donnez-nous des exemples.
Alors on va parler de syndrome assez proche pour...
Pour comprendre un peu.
Alors, il y a par exemple le syndrome de Stendhal, ou de Florence. On dit plus souvent d'ailleurs le syndrome de Florence.
Oui, c'est quoi exactement?
Qui est en lien avec l'effet que produit chez certaines personnes le fait de voir des œuvres d'art, alors en quantité, c'est pas à Florence.
Ben oui, c'est le lieu, oui.
Et donc, on pourrait mettre en lien avec la beauté aussi. Alors, on l'appelle le syndrome de Stendhal, oui, parce qu'il l'a vécu.
Il a vécu ce syndrome.
Et il le décrit, ça doit être lui le premier à le décrire en 1817, dans ses carnets de voyage.
Qu'est-ce qu'il dit exactement?
Alors, il dit « J'étais dans une sorte d'extase par l'idée d'être à Florence ». Et le voisinage des grands hommes dont je venais de voir les tombeaux, absorbé dans la contemplation de la beauté sublime, je la voyais de près, je la touchais pour ainsi dire, j'étais arrivé à ce point d'émotion où se rencontrent les sensations célestes données par les beaux-arts et les sentiments passionnés. En sortant de Santa Cruz, j'avais un battement de cœur, la vie était épuisée en moi, je marchais avec la crainte de tomber. Et donc on voit, alors, c'est là où on peut se dire, c'est à la limite de la foi, parce qu'il y a tout l'aspect
de la beauté, de la contemplation,
de la contemplation de la beauté.
D'ailleurs, il parle d'extase, enfin quelque chose qui le transporte quelque part ailleurs.
Voilà,
oui,
qui le transporte, mais il parle aussi de battements de cœur, donc de symptômes physiques, d'être épuisé.
Oui.
La vie était épuisée chez moi.
Oui.
Il marchait avec difficulté, avec la peur de tomber. Mmh. Et là, on voit qu'on est dans un autre type.
Oui, c'est pas... Oui.
Voilà.
Oui.
Et en fait, ce syndrome de Stendhal ou de Florence, il arrive régulièrement. Et les réactions des personnes qui en sont victimes, elles peuvent être assez variées. Il y a des crises d'hystérie, par exemple, qui arrivent fréquemment.
Mmh.
Donc, les personnes qui visitent Florence et qui sont prises de crises d'hystérie. Mais ça va jusqu'à des tentatives de destruction des tableaux.
Ah oui.
C'est-à-dire que la personne est tellement subjuguée par la beauté du tableau qu'elle veut le détruire pour qu'il ne soit pas sali par un autre regard.
Oui, ça va loin.
Donc,
ça
va jusqu'à des actes un peu fous. Hein.
Mmh. Et c'est ça qu'on appelle ce syndrome.
C'est le syndrome de Florence
ou de Stendhal, oui, puisque c'est lui qui l'a.
Alors, ça passe par des états d'excitation. On verra de dépersonnalisation ce qu'a vécu Stendhal. Alors, il y a un autre syndrome qui est le syndrome de Paris, qui concerne plus particulièrement les Japonais qui viennent visiter Paris pour la première fois.
Alors, on va laisser un peu de suspense là et voir ce que c'est. Donc, ceux qui habitent Paris ne sont pas concernés,
non,
mais ceux qui viennent, voilà. Comme les...
Mais ils peuvent être concernés par celui de Florence.
Ah, de Florence, voilà, c'est ça. Merci Pascal Parinet. Je rappelle le téléphone à nos auditeurs 01 56 2 fois 44 00. Avec cette question, est-ce que la foi pour vous est magique? On se retrouve à 23h.
Radio Notre-Dame.
écoute dans la nuit, les 23h.
Radio Notre-Dame.
Voilà, ce soir avec Pascal Parinet, nous posons cette question de la pensée magique et puis par rapport à la foi.
Oui. Alors, pensée magique, c'est une chose, oui. Syndrome religieux, c'est autre, encore autre chose.
Autre chose, oui, 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 c'est encore, ce sont deux choses voilà. Différentes. Hein. Donc, on a vu pensée magique, là, on a bien exprimé, voilà. Bah oui, penser que ça, les choses arrivent, bah oui, comme par magie, un claquement de doigts. Et on a bien précisé les différences entre magie et mystère. Hein. Et puis, le syndrome, justement, on en parle.
Voilà, on parlait du syndrome
de Stendhal ou de Florence. Bon.
Voilà,
et puis,
Florence.
Et du syndrome de Paris. On a juste évoqué cela, on peut peut-être
voilà,
en savoir plus.
Voilà, qui concerne les Japonais qui viennent visiter Paris pour la première fois. Alors, c'est un psychiatre japonais qui en a parlé en 1991. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les Japonais donc idéalisent Paris.
Oui.
Et quand ils arrivent, ils ressentent un trop fort décalage entre l'image qu'ils se sont fait de la France et la réalité. Et du coup, ce décalage vient la perturber le psychisme.
Ils ont idéalisé, enfin il y a quelque chose, donc, mais de façon très forte.
Voilà, c'est idéalisé d'une façon très forte, et quand ils arrivent, ben,
la réalité
ben
oui,
ça ne correspond pas.
Alors,
et ils n'arrivent pas à s'adapter, surtout au comportement français, qui est très différent du comportement japonais. Et ça crée un syndrome psychologique.
Qui a eu des répercussions. Hein,
Voilà, ben, par exemple, dans l'été 2011, il y a 20 personnes qui ont été concernées, juste pendant l'été, hein,
l'été
la période.
Oui, oui.
Et il y en a 6 qui ont dû être rapatriés.
Ah oui.
Hein?
Oui, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres villes, puisqu'on parle de pays, hein,
alors,
qui peuvent susciter un syndrome analogue ?
Le syndrome de Jérusalem. Alors là aussi, pour ceux souvent qui se rendent un peu en pèlerinage, hein, parce que c'est quand même...
Oui, Jérusalem, c'est quand même...
...de pèlerinage.
Oui.
Et là,
oui.
Bah, par exemple, il y a 1200 personnes qui auraient ressenti ce syndrome... entre 1980 et 1993.
Mmh.
Donc, ça fait à peu près une centaine de personnes par an.
Mmh.
Et une quarantaine de personnes sont hospitalisées chaque année à cause de ce syndrome. Alors là, qui est...
À Jérusalem, le syndrome de Jérusalem.
De Jérusalem.
Ah ben dis-donc, oui.
Et le psychiatre qui travaille à l'hôpital et qui prend en charge plus particulièrement ce syndrome...
Oui, qui est connu.
Qui est connu, fait l'hypothèse que c'est lié à la déception. C'est-à-dire, là aussi, les gens idéalisent la ville de Jérusalem. Ils projettent plein de choses dessus. Et finalement, quand ils arrivent, bah, c'est une ville aussi. Même si c'est une ville avec, avec toute une histoire chargée d'histoire. Mais voilà, ils sont désemparés.
Le rêve est brisé quelque part.
Le rêve est brisé.
C'est un petit peu comme l'enfant devant le qui pense que c'est le Père Noël. Bon,
voilà.
Et puis quand il apprend que ce sont ses.
Ouais.
Il y a un moment, voilà, c'est.
Voilà, le rêve est brisé et du coup, ça crée une déception. Alors. Parmi les symptômes,
justement.
On retrouve de l'anxiété, du stress. Un désir d'isolement, l'obsession de se purifier le corps, alors ça va être des ablutions, la taille des ongles, la confection de vêtements ou de toges à partir de draps, des déclamations de passage de la Bible ou des chants sacrés. mais d'une façon pathologique.
Oui, pathologique, hein. Oui. C'est d'un ordre bizarre, oui.
La proclamation de sermon jusqu'à des hallucinations. Mmh. Hein. Donc on voit, et d'ailleurs s'il y a une quarantaine de personnes chaque année d'hospitalisées, c'est parce que on rentre dans des symptômes
pathologiques, oui.
Pathologiques et psychiatriques.
Est-ce qu'il y a encore d'autres...
Voilà, il y en a un autre, c'est le syndrome indien, où là, c'est un peu pareil, les gens... Certaines personnes qui vont en Inde, ils vont avec tout un idéal religieux, mystique, spirituel.
Il y a eu toute une époque, l'époque des hippies, par exemple.
Voilà, l'époque des hippies. Et puis surtout, en arrivant, ils perdent complètement leurs repères. Parce que c'est pas du tout la même culture. Mm-hmm. Voilà. Il y en a qui partent avec l'idée du nirvana, pour atteindre le nirvana, ou au moins avec une recherche de spiritualité. Alors, et ça provoque, dans les meilleurs des cas, une folle envie de fuir.
Oui,
c'est-à-dire que ça devient insupportable et
ils veulent
se sauver.
C'est
pour ça que, d'ailleurs, souvent l'Inde, c'est où on adopte, où on ne supporte pas. mais aussi, ça peut engendrer vraiment un vacillement de la personnalité avec des troubles psychiatriques importants. Alors, il y a le sentiment océanique, mais un peu délirant, là, pour le coup. Il y a des angoisses, des personnes qui sont prises d'angoisses intenses, des bouffées délirantes, donc des personnes qui se mettent à délirer. Alors, tous ces syndromes, normalement, ils cessent quand les personnes qui les subissent rentrent chez elles.
Elle retrouve le contexte et la réalité.
C'est pour ça qu'une des premières... Alors, il y a un temps d'hospitalisation
pour se remettre.
Un minimum. Mmh. Et puis, un rapatriement assez rapide, parce que dès qu'ils sont rapatriés, finalement, ils vont mieux.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est lié
parfois, vraiment... Parfois, il y en a dès qu'ils sont dans l'avion ou qu'ils atterrissent en France, et c'est le syndrome indien ou de Jérusalem, tous les symptômes disparaissent. Et puis, parfois, ça dure un peu plus longtemps et parfois, c'est le basculement dans la maladie. On verra.
Bon, écoutez, merci en tout cas, Pascal Parinet. On va avec cet état des lieux, voir ce qu'en pensent nos auditeurs aussi. Hein. Vous allez mettre votre casque. Donc, je rappelle le téléphone 01 56 56 44 00. Peut-être que des personnes aussi ont eu un de ces syndromes, hein, d'Indien, Jérusalem, ou de Paris.
Voilà.
De Florence.
Ou le syndrome religieux, comme on va voir.
Le syndrome religieux, après on va le voir. Mais on écoute tout de suite Catherine qui est en ligne. Bonsoir Catherine.
Oui, bonsoir Chantal, bonsoir Pascal Parinet.
Bonsoir.
En fait, j'écoute votre émission avec beaucoup d'intérêt et je voulais donner ma réponse et ma réaction par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, juste avant. Vous étiez en train de poser la question, est-ce que pour vous, est-ce que la foi est magique ou pas? Et en fait, moi je voulais apporter deux exemples où, effectivement, il y a un exemple, enfin, c'est la plupart du temps, on va dire, même pour un très bon chrétien, la plupart du temps, on peut avoir une foi très profonde, mais tout ce qui nous arrive dans la vie, on va dire dans presque 95% des cas, ça dépend vraiment de notre responsabilité personnelle et des choix de vie et des choix qu'on fait. C'est-à-dire qu'on peut passer toute notre vie à faire des prières. Si on veut être exaucé, forcément, il y a des choses à faire.
Ouais.
C'est-à-dire comment on va on va faire des choix et quelles sont les responsabilités qu'on va prendre pour pouvoir, par exemple, obtenir un désir. Mais que ça, bien sûr, ça n'empêche absolument pas de demander l'assistance de Dieu par la prière. Donc ça, c'est ce qui arrive la plupart du temps. Et il y a un deuxième cas de figure où vraiment la foi est magique. Et là, c'est vraiment de la magie pure, c'est-à-dire que c'est uniquement, on va dire, l'intervention divine qui a lieu. Par exemple, vous voyez, bon, on peut faire tous les efforts qu'on veut. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut se lever le matin à 5 heures et travailler jusqu'à minuit sans s'arrêter. Mais si on a quelqu'un qui est malade, bah forcément, on peut rien faire. Et là, on peut prier. On peut beaucoup prier pour la guérison d'un malade. Ce sera uniquement la puissance de Dieu qui va s'opérer pour que le malade soit guéri, si c'est la volonté de Dieu, bien sûr.
Oui, alors c'est justement là où c'est mystérieux et non pas magique.
Voilà, et c'est ça qu'on appelle le mystère de la foi.
Oui.
C'est-à-dire qu'on va prier et qu'on va être exaucé.
Oui, mais c'est, voilà. Mais c'est important de distinguer mystérieux de magique, parce que mystérieux, une personne ou des personnes vont prier, il peut y avoir une guérison, ou pas, parce que pas toujours. Et donc c'est là où c'est mystérieux, c'est finalement les personnes prient, la personne peut être guérie ou ne pas être guérie ou être un peu améliorée mais pas complètement guérie. Alors que si c'était magique, il suffit de prier et la personne est guérie, ce qui veut dire que toute prière serait exaucée. Et ça, c'est insupportable. Moi, j'ai entendu plusieurs fois des personnes qui disaient « Oui, mais c'est insupportable d'entendre qu'il suffit de prier et qu'on est guéri, parce que celui qui ne guérit pas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a mal prié, ça veut dire qu'il est puni par Dieu, ça veut dire... voyez ? Et c'est mystérieux, on ne sait pas.
C'est le mystère de Dieu.
Ça nous dépasse. La magie, c'est systématique. Vous voyez la différence entre les deux ?
Oui. Et effectivement, je voulais ajouter, lorsque... Bon, on a des formules qui sont reprises par la Bible comme « la foi peut déplacer des montagnes », etc. En fait, ce qu'il faut comprendre là, c'est... Il faudrait dire plutôt que Dieu, rien n'est impossible à Dieu, et Dieu est supérieur à tout pouvoir humain. Maintenant, s'il n'exauce pas les prières, bon, c'est une raison qui nous échappe à nous, et qu'on comprendra ou qu'on comprendra pas plus tard, je sais pas. Mais il faut bien être conscient que si on est chrétien, si vraiment on décide de croire en Dieu, si on est chrétien et baptisé en Jésus-Christ, rien n'est impossible à Dieu. Je veux dire, même déplacer des montagnes physiquement, bon, c'est pas impossible à Dieu. Par contre, c'est pas parce que nos prières ne sont pas toujours exaucées qu'il peut pas le faire. Il peut le faire, mais il y a forcément une raison qui nous échappe, qui fait que, voilà, on prie, par exemple, pour des choses importantes, mais qu'on n'est pas exaucé. Et dans ce cas-là, faut jamais se décourager et faut se dire bon ben voilà, moi il fait ce que doit et advienne que pourra. Moi je continue à faire des efforts et je vis avec ce que j'ai. Si j'ai des handicaps, bon, je vis avec mes handicaps. Si j'ai des faiblesses, je fais des efforts, mais je m'en remets toujours à Dieu.
Ouais.
Et ça permet aussi de lâcher prise sur un désir pour que ce soit Seigneur ta volonté.
Voilà. Hein,
soit ta volonté qui s'accomplisse, oui, bien sûr.
Voilà.
En tout cas, merci pour votre témoignage, votre participation, Catherine.
Merci beaucoup.
C'était très complet. Merci.
Merci. Au revoir.
Bonsoir.
Je crois que c'est Marie-Christine qui est en ligne maintenant. Bonsoir, Marie-Christine.
Oui, bonjour, madame. Alors, ça complète peut-être un petit peu ce que dit la personne là. En fait... Moi, je trouve que souvent les chrétiens n'ont pas conscience de tout ce qui est sous-jacent à ce qui se passe dans la vie de foi. Et quelquefois, ça donne quelque chose de très rigide dans la façon dont les gens s'interpellent. Parce que quand vous avez des problèmes, du mal à franchir une étape, ou à un moment où ça coince et tout, bah on vous dit, eh ben écoute, tu n'as qu'à faire ceci, crois et tu seras exaucé, il y a des moments dans la vie, par exemple, où enfin on a une foi encore un peu intellectuelle, quoi, et on sent pas forcément que Dieu vous aime, quoi. Et on vous dit, bah il faut que tu croies que Dieu t'aime. Enfin oui, c'est des choses qu'on peut pas susciter comme ça, quoi. Ouais. Et je trouve que souvent les chrétiens sont un peu, enfin imagine qu'on peut susciter des sentiments sur commande comme ça. Enfin qu'il y a une sorte de, enfin ils sont pas toujours très conscients de.
Mais des blocages, hein, des blocages qu'il peut y avoir.
Ouais. Tout ce qu'il y a derrière. De tout ce qu'il y a derrière, tous les processus qu'il y a derrière certaines choses qu'on fait, quoi. Enfin, je veux dire, ça donne quelquefois des propos un peu maladroits. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, ben c'est ce que je disais par rapport à la guérison, par exemple, des personnes qui prient et qui ne sont pas exaucées ou pas guéries d'une maladie. C'est mystérieux. Pourquoi une personne qui va à Lourdes est guérie et une autre n'est pas guérie? Ça fait partie du mystère de la foi. Et je crois que c'est accepté. Et c'est là ce qui différencie de la magie, parce que sinon, tout le monde sera guéri si c'était magique. Donc il y a cet aspect-là. Et puis c'est vrai que dans notre attitude par rapport aux autres, d'abord il faut être respectueux des autres et puis être un peu charitable aussi, mais charitable dans le sens de les aimer. On n'a pas à porter de jugement sur la foi d'un autre. Chacun fait ce qu'il peut, hein. Et quand on regarde les grands saints comme Saint Jean de la Croix, ils ont eu des périodes de désert, de dépression. Mère Teresa a parlé aussi toute une période où elle s'accrochait et elle faisait ça vraiment pour Dieu, mais en même temps, avec toutes ses difficultés à elle, tout son désert qu'elle a traversé. La foi, c'est pas...
C'est pas un long fleuve tranquille,
c'est pas constant non plus. On a des périodes où on sent plus la foi, l'amour de Dieu, puis d'autres moments, c'est un peu le désert. Et ça fait partie de la vie. C'est tout ça. Je crois que chacun vit sa foi comme il peut, avec ce qu'il est et puis avec les grâces qu'il reçoit.
Oui, parce que je sais que, par exemple, quand on demande quelquefois des grâces de guérison, justement, c'est pas forcément libérateur de se dire de la demander, parce qu'on alors les gens reprochent aussi de pas croire, qu'on ne croit pas en la guérison qui va être automatique, parce que Dieu veut notre bonheur, quoi. Mais on peut se dire, on peut demander la guérison et se dire, mais effectivement c'est mystérieux, Dieu fait ce qu'il veut, quoi.
Ouais. Et puis il y a des lois naturelles aussi. Dieu a créé l'univers avec des lois naturelles. Alors, dans les miracles, il outrepasse ces lois naturelles, mais dans la majorité des cas, c'est les lois de la nature qui sont à l'œuvre. Pourquoi dans certains cas, il y a le miracle? Ça fait vraiment partie des mystères. Et c'est important d'accepter que ça soit mystérieux et qu'on ne peut pas tout savoir. Parce que
pas tout comprendre. Hein.
Et pas tout comprendre, sinon on serait Dieu.
Oui, bien sûr.
Voilà, merci en tout cas Marie-Christine.
C'est vraiment merci.
Bonsoir.
Je
vous propose une petite pause tout de suite en écoutant, c'est Nilsson, Without You.
Radio Notre-Dame.
Audio, c'était donc Nilsson. Alors, on va peut-être... On va écouter Nelly qui est en ligne.
Et bonsoir Chantal et bonsoir Monsieur...
Pariné, Pascal.
Pascal, voilà,
On vous écoute.
Ben, je suis un petit peu émue, voilà, parce que ça faisait longtemps que j'étais pas passée. Je soyez bénis, ainsi que tous ceux qui nous écoutent et toute l'équipe qui travaille pour vous, pour notre bonheur, on va dire. Et donc, ben, moi, je m'étais jamais posé de questions pour répondre à Pascal. Ça m'a paru, je suis un petit peu limitée et un petit peu l'idiote du village. J'ai pensé que c'était assez intellectuel, ce qu'il disait. C'est vraiment très approfondi dans la façon dont il explique les choses. C'est très bien. Je doute que c'est très bien, mais je fonctionne plus simplement, sans faire de comparativisme. Et lorsque j'ai, chaque fois que j'ai demandé quelque chose, c'est en toute innocence et j'ai toujours eu la grâce que ce soit exaucé. Il n'y a pas de truc magique. Il y a
la
simplement
grâce.
Une foi, mais une foi qui fait que on peut même pas dire la capacité de la foi, c'est pas mesurable et à chaque fois, surtout pour les autres, parce que je ne demande rien pour moi, on pourrait dire plus vous donnez, plus vous recevez. Et donc, je demande rien pour moi, mais toujours tout a été exaucé, pour la plupart du temps, pour ne pas dire tout, toujours.
Vous devez avoir beaucoup de demandes de prières. Nelly.
Oui, prêtre m'a consacré pour prier. Je crois que je l'avais, je vous l'avais
dit. Oui, vous l'avez dit, oui.
J'étais en compagnie du père Guy Gilbert. Et je sais que ce prêtre-là avait dit, il m'avait demandé il y a très très longtemps de prier pour lui. Et puis, il s'en était resté là. Et plusieurs mois plus tard, il m'a dit, Nelly, prie, tes prières portent. Et donc, je pense que les prières qu'il m'avait demandé pour lui ont dû être exaucées ou... Il a eu un meilleur dans la santé, dans l'état d'esprit. Je ne sais pas, je lui ai jamais posé la question. Voilà. Donc, magie ou mystère, je pense plutôt que c'est mystère. Que Dieu nous voit dans tel que nous sommes réellement et que nous ne savons pas. Mmh. Voilà. Nous ne savons pas que nous savons. Je pourrais dire ça. Il y a le quatrain qui dit « On ne sait pas, c'est le premier ». On sait, en deuxième, quand on évolue, qu'on ne sait pas. Mmh. Après, en troisième, on ne sait pas qu'on sait. Ou alors, on sait qu'on ne sait pas, on ne sait pas qu'on sait. Et en quatrième, et là, je pense qu'on est vraiment très, très proche de Dieu. Il y en a qui disent c'est l'éveil. Donc, vous parliez du nirvana, on sait. Tout simplement, on sait. On commence par on ne sait pas et on finit par on sait. Mais on sait quoi, en fait. Je me souviens de Jean Gabin qui
oui, oui, mais je sais qu'on ne sait jamais, oui.
Je ne sais pas.
Oui, c'est ça.
Voilà.
On a tous besoin de savoir, ça fait partie de notre humanité. On veut savoir.
Pourquoi?
On cherche à savoir pour comprendre. Voilà, mais il y a un moment où c'est peut-être plus important d'être que de savoir.
Mais oui.
Voilà. Alors, plus on vieillit dans la vie ou plus on avance dans la vie, plus on se rend compte que finalement, on en sait... de moins en moins par rapport à toute l'étendue, parce qu'on découvre l'étendue de tout ce qu'on pourrait savoir et qu'on ne sait pas. Donc je crois on évolue tous vers un peu plus de savoir ou des approfondissements de savoir. C'est important parce que ça fait partie de la culture, ça fait partie de l'évolution de la vie. Mais il y a un aspect qui est encore plus important, c'est d'être.
Je crois que le sage ne sait pas qu'il est sage. Être sage, c'est ne pas le savoir. Pourquoi essayer de comprendre? Il n'y a rien à comprendre. Parce que plus on évolue, quel que soit en âge et surtout en spiritualité, on réalise qu'on n'est rien du tout. Et plus on sait, plus on est humble parce qu'on ne sait rien du tout en fait. On croit qu'on sait, mais oui, on sait une partie, c'est calculé par notre mental, mais on sait quoi? Pourquoi chercher à comprendre? Fions-nous, réfugions-nous dans le mystère de Dieu. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à comprendre que d'être, oui, dans le mystère de Dieu. Oui, d'être, comme vous l'avez dit, dans le mystère de Dieu.
Voilà, mais on a besoin des deux. On a aussi une intelligence. Bon, Dieu nous
mais
a...
Mais elle est innée. L'intelligence est innée.
Dieu nous a donné...
Il faut pas confondre instruction et intelligence. L'instruction est un acquis et l'intelligence, c'est inné. Et l'intelligence, on ne peut pas savoir. Il n'y a que Dieu qui sait voir quelle est la grandeur de notre cœur.
Oui, bien sûr, mais on a besoin d'un certain nombre de...
Mais on a besoin des deux, même sans instruction, on acquiert des savoirs à travers la vie, à travers ce qu'on perçoit de la nature, de l'environnement, de nos expériences. Pas inné, on en acquiert aussi dans la vie. Quel que soit notre niveau d'instruction.
L'expérience qu'on fait.
Par les expériences.
Oui. Et... Je ne sais pas, j'aurais séparé l'instruction de l'émerveillement, on va dire, la prise de conscience, de voir tout ce qui est beau autour de nous. Tout
oui,
ce qui
mais
est
on a besoin. Vous voyez, ça fait partie des différentes dimensions ou facultés de notre être. On a une intelligence, c'est aussi fait pour nous en servir. Pour vivre dans le monde, pour améliorer le monde, pour être en relation d'une façon un peu plus,
mais ne croyez-vous
plus
pas que
normale avec les autres.
On est agi en l'instant. On ne peut pas savoir. Bon, je ne pensais pas que je serais prise à, que je serais prise entre guillemets, que qu'on me rappellerait pour témoigner parce qu'on m'avait pas demandé mon numéro de téléphone et ben j'avais rien prévu, j'avais rien décidé. Et ben, comme vous avez dû le voir, je ne savais même pas quoi dire au téléphone. Donc, et puis petit à petit, ça se délie. Mais il n'y a rien de prévu. On peut pas.
Ben,
l'instant est choisi par Dieu. Et on ne sait jamais ce qu'on va dire.
Pas tout à fait, pas tout à fait, madame, parce que vous avez décroché votre téléphone pour appeler. Et donc, ça veut dire que, au moins. Pour une partie, peut-être 1%, peut-être 10%, vous aviez prévu qu'on vous appelle. Sinon, vous n'auriez pas appelé. Vous voyez?
J'ai de la famille qui est en Amérique. Et c'est souvent que mais je me dis, mais elle est gonflée. Vous voulez que je vous dise ce que j'ai pensé avant de décrocher? Mais je dis, c'est quand même pas ma sœur qui m'appelle. La sœur, elle est vachement gonflée. Voilà ce que j'ai pensé. Ou alors... C'est mon fils qui est complètement décalé. Je pense la même chose des deux. Ouais. Mais je ne pensais pas une seule seconde que ça pourrait être vous.
Bon, ben écoutez. Voilà.
C'est avec plaisir que je suis avec vous. D'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de vous le dire, ça.
En même temps,
je suis toujours heureuse avec toutes les personnes qui se présentent parce que toutes les,
voilà,
les
mais
personnes
en
qui,
même
avec
temps,
qui j'ai des contacts sont des enfants.
En même
de Dieu,
temps,
voilà.
Si vous avez appelé, ça veut dire que vous aviez un minimum d'espoir qu'on vous rappelle. Voilà, et je crois ce qui est important, c'est de pas dénier toute cette partie-là.
Oui, c'est vrai.
Vous voyez. Il y a le mystère de la foi, mais c'est pas parce qu'il y a le mystère de la foi et que on est dans la foi qu'il faut jeter l'intelligence ou l'instruction à la poubelle, l'affectivité à la poubelle.
Non. C'était pas mon intention.
Non,
je suis désolée si c'est ce que vous en avez compris.
C'est pas ce que j'ai compris, mais c'est pour l'ensemble des auditeurs que je précise les choses.
D'accord.
Vous voyez, on fait avec tout ce qu'on est.
Et
on prend tout l'ensemble.
Voilà. En tout cas, merci Nelly.
Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle et sainte soirée.
À vous aussi, Nelly.
Au revoir.
Et merci.
Bonsoir. On va poursuivre un peu, Pascal Parinet, parce que le temps passe. Alors, donc, on parle le syndrome religieux. Hein, qu'en est-il?
Voilà.
Comment ça se manifeste, les causes, etc.
Voilà. Alors, on entrevoit déjà un peu dans le syndrome de Florence, de Jérusalem, de l'Inde, ce que peut être un syndrome religieux. Alors, Florence, c'est la beauté, mais il y a une dimension de beauté aussi dans la foi. Jérusalem et l'Inde, beaucoup de personnes
y
vont
aussi.
Dans la dimension spirituelle. Alors, le syndrome religieux, il se manifeste chez certaines personnes. Alors, souvent dans des grands rassemblements ou dans des retraites de guérison. Mais il peut aussi se manifester dans d'autres cas. Et il rejoint les syndromes qu'on vient de voir par différents aspects, d'abord au niveau des causes et puis ensuite au niveau des symptômes. Alors, dans les éléments déclencheurs, il y a la perte des repères, c'est-à-dire on passe d'un environnement habituel à un environnement moins habituel. Voilà, quand on va dans un grand rassemblement, on n'a plus les mêmes repères que quand on est dans son quotidien.
Bien sûr, oui.
comme autre élément déclencheur, il y a souvent l'idéalisation, l'idée de ce qu'on fait, mais une idée idéale de ce qu'on fait. Et du coup, la personne a l'impression de se rapprocher de son idéal, de le rejoindre. Et ajouter à cela, il peut y avoir un petit aspect de pensée magique, comme on a vu avant. Et puis surtout cet aspect régressif dans une recherche de fusion qu'on retrouve dans le syndrome de l'Inde avec le Nirvana. Voilà, donc la perte, le changement des repères ou la perte des repères, l'idéalisation, la pensée magique et la recherche de fusion et puis le sentiment de se rapprocher de son idéal.
Alors, justement, on peut vivre tout ça, tout ce qui est beau, tout ce qui est, ne pas tomber dans l'aspect pathologique.
Non, c'est bien pour ça que ça concerne que quelques personnes.
Oui, oui. Oui, parce que tout le monde peut avoir les mêmes, des réactions proches de que suscite la beauté, l'émerveillement, ou bien de se retrouver même dans des repères, au change de repères, mais sans pour cela bien le vivre.
Tout à fait.
Au contraire, de dépaysement, d'ouverture.
Ouais.
Voilà.
Tout à fait. Alors, mais on va voir avec les symptômes comment ça va changer. Ce qui veut dire que c'est vraiment à partir des symptômes qu'on va pouvoir voir s'il s'agit d'un syndrome ou pas.
À partir des symptômes, oui, que la personne va vivre. Alors, comment vont être les symptômes alors peut-être ?
Alors, le plus fréquent, ça va être les manifestations hystériques, comme se jeter par terre. Remuer de façon normale, pousser des cris, des gémissements. Voilà, on parlait tout à l'heure des gens qui se faisaient des vêtements avec des draps, enfin, tout un tas de symptômes comme ça.
Oui, est-ce que c'est le même facteur quand on voit des jeunes, par exemple, dans les débuts de Johnny Hallyday, où
c'est la même chose. Les gens qui s'évanouissent, par exemple, quand ils voient une star.
Oui, c'est ça, leur star préféré. Voilà. Des jeunes qui entrent en transe.
Ouais. C'est la même chose. Ils ont l'impression de se rapprocher de leur idéal. Oui. Alors là, c'est un idéal de chanteur, mais qui représente pour eux quelque chose au-delà.
Mais la manifestation, les symptômes sont identiques.
Voilà, les symptômes sont identiques. Et en plus, alors les symptômes hystériques, souvent, c'est un peu contagieux. C'est-à-dire quand il y en a un qui commence...
Ben oui, c'est donc dans les rassemblements.
Ça se répand de personne en personne. Oui. Alors ça, c'est un aspect assez courant, finalement, qu'on retrouve alors dans des manifestations laïques ou
religieuses.
Parfois religieuses. Ce qu'on retrouve aussi qui est assez courant, ça va être un état de forte excitation et de dépersonnalisation, comme dans le syndrome de Florence. Alors, la dépersonnalisation, c'est un sentiment de perte du sens de la réalité, donc la réalité, c'est-à-dire le concret, l'environnement devient flou, vague, les personnes ont l'impression que ça ressemble à un film, que les choses sont irréelles, qu'elles sont comme dans un rêve, souvent elles disent c'est comme dans un rêve, avec des sensations qui peuvent être de vertige, de fatigue, et parfois, même souvent, de grande anxiété. Voilà. Alors ça, c'est vraiment un symptôme aussi qui arrive assez fréquemment. D'autres fois, le monde ou l'environnement extérieur va paraître étrange ou irréel. Alors parfois ces sensations elles peuvent être vécues agréablement si la personne arrive à y mettre du spirituel.
Oui,
c'est-à-dire que
plan,
elle va mettre un sens spirituel, elle aura l'impression que c'est irréel, que c'est, mais elle va dire bah je suis en train de vivre une expérience spirituelle, ce qui va la rassurer. Et puis dans beaucoup de cas, il y aura des manifestations d'anxiété ou d'angoisse parce que elle a l'impression d'être en dehors de la réalité.
Un grand merci, Pascal Parinet. On va écouter tout de suite Jacques Brel. Quand on n'a que l'amour, on a tout.
Radio Notre-Dame.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat et de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force des
Voilà, c'était donc Jacques Brel, quand on a l'amour. On a oublié de, j'ai oublié de vous poser la question à 23h, c'est souvent à cette heure-là. Est-ce que vous avez des stages ou, voilà,
oui, alors on a un stage le 30 novembre et 1er décembre sur sortir du harcèlement, de la violence ou de l'emprise d'un pervers narcissique. Voilà, donc c'est un stage où on propose à chacun des pistes de solutions en fonction de sa problématique pour sortir de justement des situations de harcèlement, de manipulation ou de violence.
Voilà, donc
le téléphone, c'est le 06 60 15 79 60, 06, 60, 15, 79, 60.
Ou
contact@ifpsy.com.
Voilà, tous les renseignements sont au standard pour les personnes qui le désirent. Alors, donc on poursuit avec
Le syndrome religieux.
Le syndrome religieux, oui.
Voilà, et on parlait que c'était à partir des symptômes qu'on pouvait différencier des expériences
Normales et positives.
Voilà.
Oui.
Notamment à travers des manifestations hystériques, des symptômes de dépersonnalisation. Plus rarement, il y a aussi des symptômes comme une pensée ou un discours désorganisé, des affects fluctuants, donc avec plein d'émotions qui partent un peu dans tous les sens, un repli sur soi, des gestes incohérents. Et puis, il arrive qu'il y ait des bouffées délirantes ou un délire mystique. De pseudo-vision, de pseudo-fusion avec Dieu, mais qui sont des phénomènes délirants et ne relèvent pas d'expériences mystiques réelles.
Oui. Hein? Alors, donc, finalement, c'est à partir de quelque chose d'émotionnel au départ qui peut être beau,
oui.
Mais là, qui prend une proportion, un débordement.
Un débordement pathologique. Alors, le syndrome pathologique qui peut être ponctuel ou durer.
Mmh. Bon,
là, c'est pareil. Il y a à discerner si c'est vraiment ponctuel. Par exemple, toute la partie des manifestations hystériques, ça va pas durer.
Mmh, oui, c'est...
Et puis les autres...
relève, oui.
Alors, dans les bouffées délirantes, par exemple, il y a souvent des personnes qui vont voir une statue qui leur sourit ou qui bouge. Qui a le visage qui bouge.
Mmh.
Les délires mystiques peuvent concerner une relation exceptionnelle à Dieu, une mission spirituelle. Plus rarement, il peut y avoir des délires de possession aussi. Enfin, vous voyez, tout ça au niveau psychologique et de symptômes. Mmh. Ce qui fait que les manifestations du syndrome religieux, elles peuvent être assez diverses en fonction de la fragilité des personnes.
Fragilité psychologique, oui.
Psychologique, et puis des circonstances dans lesquelles ça se déclenche. Alors, dans la majorité des cas, ce qu'on peut repérer, c'est une anxiété importante. Et des crises de dépersonnalisation.
Mmh.
Voilà, les délires mystiques, c'est quand même un peu plus rare, mais ça existe. Et parfois, l'intensité ou la nature des troubles va être telle que ça va nécessiter une hospitalisation, hein, comme dans le cas des autres syndromes de Florence ou de Paris. Et souvent, ces symptômes peuvent être très courts et s'arrêter dès que la personne quitte le lieu. Voilà, tous les symptômes hystériques, souvent, en général, ça dure le temps de la réunion. Et puis, dès que la personne sort, ça s'arrête. Voilà, d'autres fois, ça peut durer de l'ordre d'une ou deux semaines. Particulièrement l'anxiété, et puis s'apaiser ensuite. Et puis parfois, ça va rester, l'anxiété va rester. À ce moment-là, il sera nécessaire d'entreprendre une psychothérapie.
Alors, comment distinguer les véritables expériences spirituelles?
D'abord, une expérience spirituelle, elle ne crée pas de troubles psychiques.
Ben oui.
Ah, c'est déjà le premier point de repère. Même s'il y a quelques aspects qui peuvent ressembler, en général, c'est quand même très différent. Un premier critère, ça va être tous les aspects régressifs et de désir de fusion qui concerne non seulement le syndrome religieux, mais d'une façon plus globale, l'ajustement de la démarche spirituelle. C'est-à-dire que quand on pense communion, c'est pas dans quelque chose de régressif et de fusionnel.
Oui, oui, oui. Ah. Oui. La communion, c'est autre chose que la fusion, bien sûr.
Voilà.
Oui, donc on ne peut pas aussi les crises d'hystérie les confondre avec des expériences spirituelles.
Non.
Bien sûr.
Après, par exemple, dans la prière, ça arrive souvent que la personne perd le contact parce qu'elle est pleinement en prière et qu'elle se coupe de l'environnement. Mais d'abord, la personne se sent bien dans la prière,
oui.
Pas de mal-être. Mm. Ensuite, ça dure le temps où elle prie et dès qu'elle arrête de prier,
elle retrouve le quotidien.
Et puis, c'est pas vécu avec un sentiment d'irréel. Ça peut être vécu avec un sentiment de communion, d'amour,
oui,
de
ça.
Paix intérieure, mais pas d'irréel.
Oui, bien sûr. Hein? Tourner vers les autres et pas recroqueviller sur soi. Enfin,
voilà. Quand on regarde, par exemple, les extases des grands mystiques, c'est très différent d'un délire. Dans l'extase, il peut y avoir des sensations de ravissement, de joie, mais même des sensations très sensuelles. Il y a des mystiques, quand on pense au Cantique des Cantiques, par exemple, c'est très sensuel. Il y a des mystiques qui vivent comme ça des sensations très sensuelles. Mais il n'y a pas... dans le délire, ça se construit autour d'une idée délirante. C'est-à-dire, on trouve à la base une idée délirante, alors qui est assez facile à identifier. Tout le reste va se construire autour de ça et d'une façon de plus en plus délirante. Voilà, dans l'extase, il n'y a pas tout cet aspect d'idée délirante. Et puis... il y a un autre aspect, c'est que l'extase, elle pousse à l'action. Quand on regarde tous les grands mystiques, comme Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, ils avaient leur moment d'extase mystique, mais derrière, ils agissaient.
Ah ben oui, toutes les fondations...
des grands réformateurs, grands...
ils ont écrit beaucoup souvent.
Ils ont écrit, ils ont réformé, ils ont fondé.
Oui. C'était contemplation et action. Hein,
voilà. Et le propre de l'extase, c'est que derrière, ça pousse à l'action.
Oui. C'est la vision d'une autre réalité en Dieu
la personne va partager à travers l'action et d'ailleurs sans forcément faire un lien entre son sentiment d'extase et l'action.
Oui, elle est poussée à le vivre.
Elle est poussée à agir.
Et donc il y a une transformation de la réalité du monde.
Ce qui n'existe pas dans le délire. Dans le délire, la personne reste enfermée.
Oui, enfermement.
C'est un
bien
enfermement.
Oui. On voit bien la différence. Voilà. Alors peut-être répondre à ce que Michel disait, parce qu'on l'a déjà dit, mais quelle différence y a-t-il entre mystère et magie? Alors redites-le bien.
Le mystère, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui est mystérieux, donc qui nous dépasse. La magie... c'est quelque chose qui serait systématique. Un magicien, il rate jamais son tour, par exemple. Sinon, il n'a plus de public.
Et puis c'est instantané, quoi.
C'est instantané. C'est un claquement de doigts. Et la chose se passe. Et s'il fait 10 fois le claquement de doigts, 10 fois la chose se passe. Et alors, si on prend, par exemple, la prière... il y a des prières exaucées, il y en a qui ne le sont pas, ou en tout cas...
Pas comme on le voudrait, ou pas comme on le demande. C'est pas notre volonté.
Et ça, c'est mystérieux, ça nous dépasse, et on n'a aucun pouvoir dessus. Dans la magie, c'est systématique et ça laisse sous-entendre un pouvoir de l'homme.
C'est ça, pouvoir de l'homme.
Hein? Que dans le mystère de la foi...
Au contraire, il y a lâcher prise.
Ouais, voilà,
c'est le contraire. Ouais, ouais. Ah. Grand merci, Pascal Parinet. Mais je rappelle le stage, hein, c'est sur sortir du harcèlement et justement de tous les...
Des situations d'emprise ou de violence.
C'est donc le 30 novembre et le 1er décembre. Et les inscriptions, les renseignements, 06 60... 15 79 60 ou contact@ifpsy.com. Tous les renseignements sont au standard. Merci. Merci à tous nos auditeurs. Merci également à Suzanne et Marielle qui vous accueillent au standard ce soir et à Guillaume qui était à la technique. Cette émission est disponible sur CD et en podcast. Demain à 22h, écoute dans la nuit, notre invité sera le père Régis Marie de la Tessonnière, chapelain des sanctuaires Notre-Dame de Lourdes. Le thème de la soirée, Marie, mère de miséricorde. Très très bonne nuit à tous, à demain pour nous préparer justement cette année de la miséricorde. À demain.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.